Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, là vous m'entendez. Même moi je m'entends. Je voudrais lire avec vous une partie du récit qui concerne le Jardin d'Éden. Le livre de la Genèse, chapitre 2 et 3. Nous allons lire une partie de ce récit qui est un petit peu long, qui est bien connu mais qui, à mon avis, dit plus que ce que nous en retenons d'habitude. Genèse 2, je vais lire des extraits. Je commence au verset 4. Genèse 2, 4. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel. Il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable et bons à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La suite du texte, vous la connaissez sans doute. Dieu va interdire à l'homme et à la femme qu'il crée également de consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez que le serpent, qui est une manière de parler du diable, va tenter la femme en l'incitant à manger de ce fruit. Puis la femme, après avoir consommé de ce fruit, tente, entre guillemets, l'homme. L'homme fait de même. Et puis, nous reprenons le récit à ce moment-là. Dieu intervient et les choses se déroule d'une manière qui n'était pas prévue. Alors je vais lire à partir du verset 7. On vient de consommer le fruit. Les yeux de tous deux, Adam et Ève, s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure, à l'est du jardin d'Éden, les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Jusqu'ici notre lecture. Alors il s'agit d'un texte fameux, c'est un texte bien connu, j'ose presque dire, mais Myriam est dans l'assistance, que c'est un texte d'école du dimanche, que c'est le genre de choses que l'on connaît, les récits bibliques de base, que l'on apprend très tôt dans sa vie. Mais cela ne veut pas dire que nous avons épuisé le sens de ce texte ou que nous l'avons compris dans toutes ses dimensions. Quand je dis un texte d'école du dimanche, vous savez que c'est à l'école du dimanche qu'on reçoit les meilleures questions. Souvent des questions meilleures que celles que posent les étudiants en théologie. Alors je voudrais poser avec vous une question. Quel est le sens profond de ce jardin d'Éden? Est-ce que c'est simplement un endroit où Dieu avait mis l'homme et puis la femme et où il s'est passé une histoire malheureuse qui débouche sur des conséquences désastreuses comme la mort, la peine du travail, la peine d'angle, l'activité du travail, la douleur, les douleurs lors des accouchements? Est-ce que c'est juste un endroit comme ça? Ou est-ce qu'il y a un sens plus profond? Ça sera la première chose. Dans un second temps, je vous proposerai de réfléchir aux conséquences négatives que cela entraîne pour toute l'humanité et en même temps aux explications que cela fournit sur la situation actuelle de l'humanité. Et puis dans un troisième et dernier temps, j'aimerais voir avec vous que dans le reste de l'Écriture, nous avons en quelque sorte un moyen, un espoir de retourner au jardin d'Éden. Quelque sorte. Alors d'abord, la première chose, qu'est-ce que c'est que cet endroit, le jardin d'Éden? Je vais essayer de vous montrer que c'est un peu plus qu'un endroit. Et nous avons des indices dans le texte d'un sens plus profond. Au tout dernier verset du récit, au chapitre 3, verset 24, nous apprenons que Dieu a placé, en quelque sorte, à l'entrée du jardin d'Éden, pour en bloquer le passage, plus précisément pour garder le chemin de l'arbre de vie, le Seigneur a placé des chérubins. Alors les chérubins, c'est pas une façon de parler des enfants. On dit souvent les chérubins ou les garnements pour des enfants. C'est pas du tout ça dans l'Écriture. Il n'est pas non plus dit dans l'Écriture qu'il s'agit d'anges. Les chérubins, c'était des êtres bien connus dans l'Orient ancien, bien connus en Israël et dans les pays qui entouraient Israël. Cela existait par exemple en Mésopotamie. Et les Mésopotamiens avaient le même mot que le peuple hébreu pour parler de ces êtres-là. Les chérubins, vous pouvez vous en faire une petite idée si vous pensez aux sphinx. C'est les sphinx en Égypte. Ces êtres qui ont un corps d'animal, par exemple un corps de lion, et qui ont une tête humaine. Ça, c'était en Égypte. Mais en Mésopotamie, on avait le même phénomène. Des êtres un peu mixtes, hybrides, avec un corps d'animal, typiquement un lion ou un bœuf, et une tête humaine. Des êtres hybrides. À quoi servaient ces êtres? Pourquoi on parlait d'eux? Eh bien, il y avait deux utilités, deux fonctions pour les fameux chérubins. Dans certaines traductions, on dit maintenant les chérubes. Il y avait deux fonctions. La première, c'était de supporter, en quelque sorte, le trône d'un roi. Si vous lisez dans l'Écriture le moment où on parle du trône de Salomon, on pourrait remarquer que sur les côtés du trône de Salomon, il y a deux chérubins. Si vous lisez la vision qu'a reçue le prophète Ézéchiel, dans le premier chapitre de son livre, vous voyez qu'il a une vision d'un char avec des roues, une plateforme, en quelque sorte, et un trône, le trône de Dieu. Qu'est-ce que l'on trouve en dessous de cette plateforme? en quelque sorte pour supporter le trône des êtres mystérieux dont on nous dit plus tard dans le texte qu'il s'agit de chérubins. C'était la première chose à laquelle servaient les chérubins. Porter les trônes, être des porteurs de trônes. La deuxième chose à laquelle servaient les chérubins, c'était garder, protéger l'entrée des lieux sacrés. À commencer par les temples. Quand on fait des fouilles archéologiques, on tombe parfois sur des statues qui protégeaient l'entrée des sanctuaires. Ici, il pouvait s'agir de sanctuaires, donc de la maison d'un roi, mais il pouvait aussi s'agir, de la maison d'un dieu, mais il pouvait aussi s'agir de palais royaux, c'est-à-dire la maison du roi était souvent considéré comme un fils de Dieu. La fonction des chérubins, c'était de protéger l'accès à ces lieux qui étaient en quelque sorte sacrés. En fait, quand on dit que les chérubins portent des trônes, c'est aussi une façon pour eux de délimiter l'endroit, la frontière avec le lieu où s'assoit le Dieu. Les chérubins, dans l'Antiquité, marquent, protègent la frontière de l'espace sacré. Ils sont là pour dire « Stop, vous n'entrez pas ». Vous savez que dans le temple de Salomon, il y avait quantité de représentations de chérubins. Vous en aviez sur le pourtour des murs, comme pour délimiter l'espace du temple, l'espace sacré, le sanctuaire. Et à l'intérieur du temple, sur la porte qui menait au Saint des Saints, l'endroit où une seule personne, le grand prêtre, pouvait entrer une seule fois par an, il y avait des chérubins représentés. En quelque sorte, pour marquer le passage à un lieu encore plus sacré, et de fait, on l'appelle le Saint des Saints. Donc il y a des sortes de frontières comme cela. On ne rentre pas n'importe comment. Ce ne sont pas simplement des motifs décoratifs, c'est pour montrer qu'il y a une frontière. En réalité, le reste de l'écriture semble nous indiquer qu'il ne s'agit pas d'être réel, mais d'être symbolique. Et ça se voit parce que dans l'Apocalypse, quand on parle des êtres vivants, les fameux êtres vivants, qu'on trouve dès les premiers chapitres, ces êtres sont décrits à la fois comme des chérubins et comme ce qu'on appelle des séraphins. Les séraphins apparaissent chez Ésaïe dans une vision. Je vous parle de beaucoup de visions étranges ce matin. Une vision où on a des sortes de serpents brûlants. Et l'auteur de l'Apocalypse, n'hésitez pas à prendre des caractéristiques des chérubins, des caractéristiques des séraphins, à les mélanger pour parler des êtres vivants. Donc ça prouve qu'en fait, il ne s'agit pas de choses qu'il faut prendre de manière littérale. Il s'agit sans doute de symboles pour montrer cette frontière entre le monde humain et le monde divin. Certains pensent que ça représente la nature dans toute sa force au service de Dieu avec un marquage de la frontière entre notre monde et celui de Dieu. Donc ça, c'est la première chose. Il y a des chérubins qui gardent le chemin du jardin d'Éden, qui empêchent les hommes d'y retourner puisqu'ils viennent d'en être expulsés. Pour un Israélite, pour un lecteur ou un auditeur du texte de la Genèse, en Israël, dans le temps du peuple de Dieu, avant la venue de Jésus, dire que le jardin d'Éden est gardé par des chérubins, c'est pas simplement dire que Dieu a posté des vigiles à l'entrée du jardin d'Éden. C'est une façon de dire que le jardin d'Éden est, d'une certaine manière, un lieu sacré. Pour un Israélite, quand on dit « on a mis des chérubins qui protègent ce lieu », ça devait faire tilt dans la tête, il s'agit d'un lieu sacré, en quelque sorte d'un temple. Il y a un texte juif du IIe siècle avant Jésus-Christ qui s'appelle le texte des Jubilés, un texte qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas dans le canon, un texte de réflexion, on va dire, et qui dit que le jardin d'Éden, c'est en quelque sorte le saint des saints du monde. Il y avait donc des Juifs qui avaient perçu ça dans l'Antiquité. Le jardin d'Éden, ce n'est pas simplement un lieu neutre. Ce n'est pas simplement un jardin. C'est presque un temple. Alors, si j'ai ça, ça vous surprend peut-être. Il faut se rappeler ce que c'est qu'un temple. La définition d'un temple, c'est la maison d'un Dieu. C'est l'endroit où le Dieu est présent et par conséquent, l'endroit où l'homme peut rencontrer Dieu. Or, le jardin d'Éden, à cet égard, c'est le meilleur temple de toute l'histoire. Parce que c'est un endroit où Dieu se promène comme de manière naturelle. Je vous relis le verset du chapitre 3, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Le verbe qui est utilisé pour parcourir, on pourrait le traduire, il allait, il venait. Il se promenait dans le jardin d'Éden. Un endroit où Dieu se promène et où l'homme peut parler avec lui. On a un dialogue entre Dieu, Adam et Ève aussitôt après. Ça, pour des Israélites, c'est complètement inimaginable en temps normal. Pour avoir accès à Dieu, il fallait aller au temple et passer par tout un chemin qui fait que, un, si vous étiez une femme, vous ne pouviez pas aller très loin, et deux, même si vous étiez un prêtre, même si vous étiez un homme, il fallait être un prêtre pour aller encore plus loin. Et pour rentrer vraiment dans la présence de Dieu totale, il fallait aller dans le Saint des Saints. Il y avait un seul homme qui pouvait faire cela, le grand prêtre, et encore un seul jour par an. Qu'est-ce qui se passe ici? Adam et Ève parlent comme si c'était naturel avec Dieu, comme si c'était un être humain qu'ils pouvaient croiser dans le jardin. Le jardin d'Éden, c'est un endroit où Dieu se promène, où on peut le rencontrer. Complètement hallucinant pour l'Israël ancien. Mais ce n'est pas tout. Vous allez me dire, le jardin d'Éden, c'est un jardin, ce n'est pas un temple. Un jardin, c'est fait de pierre, c'est un édifice. C'est là qu'il faut se rappeler à quoi ressemblait un temple dans l'Antiquité. À quoi ressemblait un temple en Égypte ou dans l'Israël ancien. Si vous lisez ces chapitres, alors en général on les parcourt assez vite, hein, les chapitres de description du temple, où on vous décrit à quoi ressemblent les murs, quelles sont les mesures, quelle est la décoration des colonnes, des murs, de la porte du Saint des Saints, etc. En général, on passe très vite sur ces chapitres. On passe tellement vite qu'on rate quelques éléments. Si vous regardez bien les chapitres du Livre des Rois qui décrivent le Temple de Salomon, vous verrez qu'en fait, tout est fait dans la décoration du Temple pour qu'on ait l'impression de se retrouver en pleine nature. Alors, je vais vous citer des exemples, des choses que je n'avais pas vues à la lecture, parce que je lis trop vite. Le bois de cèdre à l'intérieur du Temple, je cite le texte, offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies. Ça concerne aussi le pourtour des murs et les battants de porte à l'entrée du temple, et même celle du Saint des Saints, parce qu'on y avait sculpté des chérubins, des branches de palmiers dans le temple, et des fleurs épanouies. Vous savez qu'il y avait deux grandes colonnes de bronze. Elles étaient couvertes de centaines de grenades et il y avait des lys à leur sommet. Vous savez qu'il y avait un bassin pour que les prêtres puissent se laver, propre disons. On appelait ça la mer, avec un grand M, la mer. Le pourtour de ce bassin était orné de rangées de coloquintes, encore des coloquintes, et le rebord était façonné en fleurs de lys. Il y avait des bases qui supportaient ce bassin, pas posé directement sur le sol, il y avait une base sur laquelle on le posait, et dessus il y avait sculpté des lions, des bœufs et des chérubins et des branches de palmier. Même le chandelier, quand on le décrit au sujet quand on parle du tabernacle, il y avait un aspect botanique parce qu'il y avait des calices en forme d'amandes avec des boutons et des fleurs. Autrement dit, quand vous rentriez dans le temple, si vous étiez un petit peu observateur, vous voyez partout des éléments naturels, partout des éléments végétaux. Il y a même plus que cela. Tout était fait pour qu'on oublie, quasiment, On est dans un édifice de pierre, parce que le texte vous précise, et je cite, « Tout était en cèdre, on ne voyait aucune pierre. » Quand vous rentriez dans le temple, vous rentriez dans l'endroit qui ressemblait le plus, dans tout Jérusalem, à un jardin. Ce qui devait être particulier, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en or, qui étaient dorées. Mais tout ressemblait quasiment à un jardin. Alors nous, ça nous surprend, parce qu'on ne lit pas le texte comme ça d'habitude. Mais pour ceux qui connaissent bien l'Orient ancien, c'est un peu moins surprenant. Il y a une égyptologue fameuse, Christiane Desroches Noblecourt, qui écrit beaucoup de livres sur l'Égypte, et qui explique qu'en Égypte, dans un temple, tout venait de la nature. Tout était fait pour représenter la nature. Quand vous avez des temples en Égypte, alors parfois on le voit hein, sur des représentations, on faisait en sorte que les colonnes ressemblent à des tiges. Et si vous regardez le sommet des colonnes, vous avez l'impression que ça retombe comme ça, architecturalement. C'est simplement qu'on essaye de faire ressembler ça à des troncs, ou à des tiges, à des roseaux, à des éléments de la nature. On sait même que parfois, le plafond était bleu et couvert d'étoiles pour représenter le ciel. Bref, quand vous entriez dans un temple, en Égypte ou alors à Jérusalem, tout était fait pour que vous oubliez la pierre et que vous vous retrouviez dans une sorte de jardin dans la nature. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Mais c'est un petit peu moins étonnant si on fait le rapport entre le jardin d'Éden, d'un côté, un jardin, et puis d'un autre côté, ces temples qui ressemblent à des jardins. Pour un Israélite, dire que le jardin d'Éden, c'est le lieu de la présence de Dieu, la présence naturelle, où il se promène, où on a accès à lui, et qui ressemble à un jardin, en fait, ça veut simplement dire qu'on a là un temple naturel. C'est vraiment le prototype, si vous voulez, le modèle de ce qui sera ensuite des temples faits de pierre. Comme si, lorsqu'on construit un temple, on essaye de refaire vivre, reproduire le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le premier de tous les temples. En même temps, c'est le plus dépouillé qui soit. Parce qu'il y a quantité de choses qu'on a dans un temple d'habitude qui ne se trouvent pas dans le jardin d'Éden. Vous n'avez pas d'autel dans le jardin d'Éden. On ne fait pas de sacrifice. Toutes les règles compliquées de purification, de pureté, d'impureté, qu'il y avait dans le livre du Lévitique, tout ça, ça n'a pas cours dans le jardin d'Éden. On n'a même pas besoin de prêtre. Adam n'est pas un prêtre. Adam et Ève sont des êtres humains lambda, si je puis dire. Un rôle particulier, mais ce sont des êtres humains, on ne dit pas qu'ils sont prêtres. Tout ce système qui fait que l'accès à un temple était si compliqué, qu'il y avait des problèmes de pureté, qu'il fallait tuer des animaux, il y avait tellement de sang qu'on avait besoin de quantité d'eau, c'était une véritable boucherie. C'est terrible à dire. Mais un temple dans l'Antiquité, c'était une véritable boucherie. C'est terrible, hein, mais c'était ça le prix du péché. C'est ça qui nous rappelait un petit peu le prix de nos fautes. Il y avait besoin de quantité de sacrifices. Rien de tout cela ne se trouve dans le jardin d'Éden. Comment ça se fait? Et c'est précisément que le jardin d'Éden, ça se situe avant que les problèmes se produisent. C'est quand l'homme est expulsé du jardin d'Éden que là, il va falloir trouver une manière de reprendre contact, en quelque sorte, avec Dieu. Mais il y a une coupure fondamentale à la fin de notre chapitre 3. C'est le moment où l'homme et la femme, Adam et Ève, sont expulsés. Jusque-là, Adam et Ève étaient dans la présence offerte gratuitement de Dieu. Pour récapituler, je dirais la chose suivante. Le jardin d'Éden, aussi surprenant que ça soit pour nous, la première lecture, c'est le premier de tous les temples. C'est le lieu naturel, c'est un lieu naturel, c'est la nature, un jardin. C'est le lieu naturel pour la présence naturelle de Dieu avec les êtres humains. Et c'est ça qu'ont perdu Adam et Ève. Ça n'est pas simplement que le travail va devenir difficile. Ça n'est pas simplement qu'il va être difficile d'accoucher. Ça n'est pas simplement que l'homme va dominer sur la femme. Vous entendez comme une malédiction. Ce n'est pas simplement non plus que l'homme et la femme sont maintenant mortels. La chose la plus frappante à la fin du chapitre 3 de la Genèse, c'est que l'homme et la femme ont perdu accès au jardin d'Éden, à tel point que Dieu poste des chérubins qui sont armés pour empêcher de retourner dans le jardin d'Éden. C'est une affaire que Dieu prend au sérieux. Alors tout ça, ça a des implications fortes pour notre manière de regarder la vie et le monde. Je pense que ça répond à plusieurs questions. Et c'est mon deuxième point. Les conséquences de cette catastrophe de Genèse 3. C'est pas simplement que l'homme et la femme n'ont plus accès à un jardin, c'est pas simplement une petite histoire. C'est pas non plus, comme on essaye de le dire parfois, un mythe qui serait une façon de parler de n'importe quel homme ou n'importe quelle femme qui, un jour ou l'autre, se brouille avec Dieu. C'est pas ça du tout. Le jardin d'Éden, c'est une histoire fondatrice qui explique la situation de vous et moi, de tous les êtres humains actuels. C'est l'explication d'une catastrophe qui concerne chaque être humain. Une catastrophe qui s'est produite une fois, avec un seul homme et sa femme, qui a des conséquences pour toute l'humanité. Et ça change complètement la manière de voir la vie. Si nous avions, vous savez, la Bible, si on avait simplement Genèse 1, où Dieu crée le monde, à la limite Genèse 2, ça va encore. Et si on passait directement à la suite du texte, sans avoir Genèse 3, il nous manquerait quelque chose de très profond. Il nous manquerait ce que justement, ceux qui ne croient pas en la Bible n'ont pas, une explication à l'état actuel de notre monde. Notre vie n'est plus la même que celle qui perd aux êtres humains dans le jardin d'Éden. Les choses ont radicalement changé. Et si vous y pensez, ça change la manière de voir la vie. Si vous oubliez la Bible, vous oubliez la révélation faite dans la Bible, la révélation sur Dieu et l'histoire qu'il a avec l'être humain, mais vous vous retrouvez à vous poser des questions étranges. Pour ceux qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, qu'est-ce que c'est que la mort ? Pour prendre l'exemple le plus frappant, qu'est-ce que c'est que la mort d'un être humain ? S'il n'y a pas de Dieu, si les choses se font simplement par le hasard, un être humain qui meurt, je suis désolé de le dire, mais c'est un mammifère qui meurt. C'est un animal doué d'un esprit, certes, mais c'est un animal qui meurt. Finalement, c'est normal que les êtres humains meurent s'il n'y a pas de Dieu, si l'homme n'est pas une créature spéciale de Dieu, c'est normal que les êtres humains meurent. Il n'y a aucune explication que vous fourniront les philosophes athées, qui ne croient pas en Dieu, à la mort. Finalement, ce que l'on vous dit, c'est que c'est normal. Il faut bien mourir comme les animaux. Nous ne sommes que des animaux, nous sommes doués d'un esprit, mais il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de vie spirituelle, il n'y a pas d'au-delà. Nous sommes à mourir et c'est la fin. Or, les gens savent que ce n'est pas normal. Vous pouvez dire ça tant que vous n'avez pas un proche qui décède. Mais quand quelqu'un de proche de vous décède, vous perdez votre femme ou un enfant, ou un oncle chéri, quelqu'un que vous aimez fortement, vous sentez bien qu'il y a quelque chose d'absurde, que les êtres humains ne sont pas faits pour mourir normalement. Quelque chose de plus que cela. Le seul endroit où on vous enseigne que l'homme, c'est plus que ça, c'est plus qu'un animal, c'est la Genèse. On vous dit que l'homme, c'est l'image de Dieu sur terre. L'homme, la femme, les enfants, ont une valeur qui fait qu'on ne peut pas les confondre avec des animaux. Ils ont une valeur supplémentaire. Et la mort n'est pas quelque chose de normal. Si on n'avait pas Genèse 3, on ne le saurait pas. On pourrait le comprendre autrement. La mort, c'est une sanction. C'est un drame, c'est une catastrophe, mais c'est une sanction. C'est le produit de la rébellion de Dieu, de l'homme et de la femme contre Dieu. Autrement dit, quand des non-croyants nous posent la question « Mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? Où est Dieu ? Où est Dieu face à un monde rempli d'une telle souffrance? Vous ne pouvez pas vous contenter de dire, d'après Genèse 1, Dieu a créé le monde. Il faut absolument penser à Genèse 3, qui change toute la perspective. Oui, c'est vrai, le monde n'est plus ce qu'il était au départ. La situation des êtres humains n'est pas celle qu'elle était au départ. Il y a un problème. Et il est légitime pour les êtres humains de trouver absurde ce qui se passe, et en particulier la mort des êtres proches. C'est légitime, c'est vrai. Il y a plus que ça dans le texte. Il y a plus que cela. Il y a aussi l'idée que la mort, malgré toute son horreur, toute la souffrance, elle a en quelque sorte un sens. C'est une sanction. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est le signe pour les êtres humains. C'est aussi le signe pour les êtres humains que quelque chose cloche dans ce monde. Il est faux de dire que la mort, c'est simplement comme des animaux qui meurent. Ce sont des êtres vivants sur Terre qui finissent par mourir. C'est la biologie. C'est faux. Il y a quelque chose d'absurde dans tout cela. Et cette absurdité que l'on vit quand on se retrouve face à la mort, c'est un reflet, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose d'anormal entre Dieu et l'homme. Quelque chose a été cassé. Nous ne sommes pas dans le monde tel qu'il était au départ. Notre vie n'est pas celle qu'elle était au départ. Ce qui signifie que dans notre discussion avec ceux qui ne croient pas en Dieu ou en l'Évangile, nous pouvons tenir compte, un, du fait que ce sentiment d'absurdité face à la mort, face au mal qui règne dans le monde, c'est normal, c'est légitime. C'est légitime. C'est pas quelque chose qui, comme le pensent les athées, est une fatalité. C'est légitime. Mais deuxièmement, c'est aussi difficile que ça soit à dire, c'est une chance pour les êtres humains de se rendre compte que quelque chose cloche. C'est une chance pour les êtres humains de se rendre compte qu'il y a une dimension supplémentaire qui met en jeu l'homme et Dieu et que quelque chose a été cassé. Et il y a un troisième aspect, troisième conséquence de ce texte pour nous, parmi les conséquences terribles. Vous savez, souvent on nous demande, j'ai dit tout à l'heure, où est Dieu si le monde est tout mauvais ? S'il y a des catastrophes d'une telle ampleur, s'il y a des gens qui tuent leurs enfants, comme on l'a vu dans les informations il y a quelques jours, des guerres, des femmes violées, où est Dieu dans ce monde? Le texte nous renvoie la question. D'abord, dans le texte, c'est Dieu, qui demande à l'homme « Où es-tu ?» C'est Dieu qui doit aller chercher l'homme. L'homme s'est caché parce qu'il a honte face à Dieu. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le texte, quand vous lui demandez « Mais où est Dieu ?», il vous répond en quelque sorte « Mais où êtes-vous, vous ? Où êtes-vous, vous, les êtres humains ? Vous êtes hors du jardin d'Éden. » C'est ça que nous apprend le texte. Nous ne sommes pas dans la présence, dans la communion naturelle avec Dieu. Nous avons perdu cela. Nous avons perdu cela. Et il est donc injuste de se réveiller un beau matin et de dire « Ah ben le monde est pourri ». Il y a des guerres partout, des souffrances partout. Où est Dieu? Ça veut dire qu'on fait abstraction de l'histoire qu'il y a eu entre l'homme et Dieu. Il y a eu une rupture, une cassure. C'est un petit peu comme si vous appeliez votre ex-femme, vous êtes divorcé, vous appelez votre ex-femme, vous dites, mais pourquoi t'es pas à la maison? Pourquoi? On a divorcé, mon ami. Je suis désolé. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous réveiller un beau matin et dire, j'exige que Dieu réponde à mes prières. Comme ça, j'exige que Dieu me rende des comptes, le monde est pourri. L'homme a divorcé avec Dieu. Il lui a désobéi. Et Dieu l'a expulsé de sa présence. Il l'a expulsé de ce fameux temple où l'homme avait en quelque sorte droit de bénéficier de la présence naturelle de Dieu. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Alors il y a une troisième chose qui est quand même plus positive. C'est qu'il y a le reste de la Bible. Et dans le reste de la Bible, on nous propose, en quelque sorte progressivement, de revenir dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas dit tel quel. Parce qu'en fait, les choses sont encore mieux que cela. Il y avait le temple du jardin d'Éden, présence de Dieu naturel. Il y a eu ensuite quantité de temples faits par les êtres humains, qui étaient les maisons qu'on faisait pour les dieux, pour qu'ils viennent et qu'ils soient présents avec les hommes, qu'on puisse les rencontrer. Et Dieu lui-même, le seul vrai Dieu, a accordé à son peuple d'avoir un endroit où sa présence serait particulièrement marquée, où les êtres humains pourraient avoir accès à lui sous des conditions assez sévères, des restrictions assez sévères. Mais un temple qui, en quelque sorte, faisait écho au jardin d'Éden. C'est pour ça qu'il est représenté comme un jardin. Seulement, tous ces temples étaient remplis de rouages complexes qui font qu'il devait faire des sacrifices, se purifier, etc., pour avoir accès à Dieu. Et puis, dans la Nouvelle Alliance, une fois Jésus venu, alors là, il se passe quelque chose de spectaculaire. Au moment où Jésus meurt, c'est le voile du temple s'est déchiré en deux. Comme si l'accès au Saint des Saints était ouvert. Quelque chose de fondamental a changé. Vous savez que l'apôtre Paul, quand il écrivait aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens, il disait « Vous, Église de Corinthe, vous êtes un temple. Vous êtes le temple de Dieu où réside le Saint-Esprit. » Autrement dit, l'Église elle-même est devenue le lieu où il y a la présence de Dieu. L'Église comme famille, le corps de Christ. Et il dit un petit peu plus loin dans sa première lettre aux Corinthiens, « Mais votre corps, à vous individuellement, chacun d'entre vous, est le temple du Saint-Esprit. » Ça, c'est surprenant. Et encore plus surprenant que ça, Jésus lui-même, quand il était sur terre pendant son ministère, a osé dire à ses disciples, vous voyez le temple d'Hérode, qui était vraiment, je ne dis pas la septième meilleure merveille du monde, mais c'était extrêmement impressionnant. Et ça, ils ont mis des décennies à le détruire. Ils ont mis des décennies à le construire, et ça va être détruit par les Romains. Qu'est-ce que dit Jésus aux disciples qui lui disent « Ah, t'as vu comme c'est super ?» Il dit « Détruisez ce temple, en 3 jours je le reconstruis. » Et le texte précise, il parlait de son propre corps. Le corps de Jésus est présenté comme un temple de Dieu sur terre. Jésus, c'était la présence de Dieu, Dieu lui-même au milieu de nous. C'est pour ça que Ésaïe l'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu était au milieu de nous pendant que Jésus marchait sur terre. Alors, vous allez me dire, mais alors, on avait le temple au jardin d'Éden, présence naturelle de Dieu. On avait le temple de Salomon, c'est conquis, mais on peut encore avoir accès d'une certaine manière à la présence de Dieu. Et puis là, on a l'impression que tout éclate. Qu'est-ce qui se passe? Il faut se rappeler ce que c'est que le sens du temple. Il n'y a aucun intérêt à rentrer dans un lieu avec des pierres. Il n'y aurait même pas un intérêt particulier à rentrer dans un lieu qui s'appellerait le Jardin d'Éden. La seule chose qui a toujours compté dans cette histoire, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu était offerte avec Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même incarné en homme. La présence de Dieu est offerte dans l'Église. C'est-à-dire que nous croyons que Jésus est parmi nous ce matin. Et la présence de Dieu est offerte à chaque croyant en lui-même, chacun est un temple du Saint-Esprit. Et tout cela, finalement, tout ça, ça sera encore mieux une fois le Seigneur revenu. Parce que dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, on vous dit, une fois que les cieux et la terre ont été en quelque sorte recréés, nouveaux cieux, nouvelle terre, on vous dit que dans la Jérusalem, où nous aurons notre vie éternelle, il n'y avait plus de temple. Il n'y avait plus de temple parce que c'est Dieu lui-même et l'agneau qui sont le temple. Ils sont présents. Dans la présence de Dieu, nous n'aurons même plus besoin de chercher un temple. Dieu sera éternellement présent avec nous. Et tout ça, je crois que ça nous exhorte à 3 choses. 1, et je finis là-dessus. Première chose, nous avons à chérir la présence de Dieu dans notre cœur, la présence de l'Esprit en nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. La chose la plus importante dans la vie chrétienne, c'est l'accès à la présence de Dieu en Jésus-Christ, par son Esprit en nous. C'est la chose la plus belle que nous puissions vivre. Vous savez que l'apôtre Paul disait que ça, c'est les arts, c'est l'acompte de notre héritage futur, le Saint-Esprit en nous. La deuxième chose, c'est que cette présence de Dieu est à vivre en Église, puisque l'Église collectivement est le temple du Seigneur. La troisième chose, c'est qu'il ne faut pas se contenter de cela. Nous avons une espérance ferme. Nous avons l'espérance ferme d'une présence de Dieu en Jésus-Christ, physiquement. Jésus est encore un homme avec nous pour l'éternité. Et ce n'est pas étonnant si, dans la description de l'Apocalypse, il y a à nouveau un arbre de vie, comme dans le jardin d'Éden, mais auquel nous avons accès. Ça sera véritablement pour nous le paradis, la présence perpétuelle, naturelle, grâce à Jésus-Christ, de Dieu avec nous, parmi nous.